Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h09, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Et à partir de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Au menu de ce rendez-vous auto tout à l'heure avec Jean-Luc. Qu'est-ce qu'une occasion 0 km ? On rentrera dans les détails, on essaiera de comprendre véritablement ce que c'est. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Smart électrique 100% électrique, la Smart ED qui vient de sortir. Et puis en deuxième partie, on s'intéressera aux services à domicile disponibles pour votre véhicule, la vidange, la révision, changer ses pneus et même faire le plein. Et puis on s'intéressera aussi à l'expo Steve McQueen qui était, vous le savez sans doute, un pilote américain et surtout un fan d'automobile, de course, de voitures de sport. On en parlera tout à l'heure. Et puis vos questions auto, donc dès 8h. Mais dans l'immédiat, deuxième partie de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, on observera les tortues marines. Nous nous intéresserons aussi à cette actualité de cette semaine. Hein. Il semblerait que nous soyons à l'aube d'une extinction de masse des animaux,
Laetitia. Des animaux, oui, malheureusement. Et surtout avec, des vertébrés.
Voilà, c'est assez étonnant. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, on va découvrir ces entreprises qui s'engagent pour le bien-être animal.
Et nous sommes avec Léopoldine Charbonneux, qui est directrice du CIWF France, qui est une association qui a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d'élevage. Léopoldine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Merci.
Alors, votre association donc fait vraiment la promotion du bien-être animal dans les élevages. Alors, revenons d'abord à un scandale récent. Vous savez que dernièrement, l'association L214, qui est un peu lanceur d'alerte concernant les conditions de vie des animaux, a montré dans une vidéo les conditions de vie abominables, de deux élevages industriels de porcs qui fournissaient une marque bretonne réputée pour son pâté. Est-ce que c'est la dure réalité des choses dans les élevages français?
Alors, il y a élevage et élevage, effectivement, et ça dépend des espèces. Les modes d'élevage varient énormément. Ce qu'il faut savoir en général, c'est qu'il y a à peu près 80% des animaux en France qui sont dans des élevages industriels.
Ouais, ça veut tout dire, industriel.
Ça veut tout dire. Ouais. Donc, on a bien sûr une vision de certaines espèces qu'on voit beaucoup dans les champs quand on se promène dans la campagne française, comme souvent les vaches, les moutons. Mais les cochons, on les voit très peu. Et en grande partie parce que ils sont tous quasi tous dans des élevages industriels, donc à plus de 95% sont dans des élevages industriels, et je crois que le chiffre du plein air, donc des animaux qui vont vraiment dehors, c'est à peu près 1%.
Et pour les poules, pareil, je crois que c'est plus de 3/4 qui sont en batterie, c'est ça?
Oui, alors les poules, il y a une évolution qui se fait, mais on est encore, les chiffres officiels disent à peu près 68% deux tiers des poules françaises encore en cage. Certes aménagées, un petit peu améliorées par rapport aux cages d'avant, mais encore bien insuffisantes pour répondre aux besoins des animaux, évidemment.
Alors comment une association comme la vôtre peut agir, dans ce cas précis, par exemple, d'élevage de porcs en batterie, pour améliorer les conditions de vie des animaux?
Alors, je crois que la première étape, c'est d'informer et de sensibiliser les gens. Je pense que beaucoup de gens ont été choqués par ces vidéos et par d'autres images qu'on a pu montrer aussi sur les conditions d'élevage. Si on parle d'élevage en cage, peut-être que la plupart des Français ne savent pas que les truies, elles sont en case pendant la gestation, elles sont en cage ensuite pour la mise bas, comme on a pu voir dans ces images, que les porcs à l'engraissement, donc ceux qui sont élevés pour leur viande, ils sont dans des très fortes densités, beaucoup de porcs dans des bâtiments, peu d'espace par porc, avec aucune paille, aucun ce qu'on appelle des matériaux d'enrichissement qui permettent de les occuper. Il faut savoir que les cochons sont des animaux très intelligents qui ont volonté, un instinct de fouetter le sol. Comment ils peuvent le faire dans un environnement complètement nu de caillebotis intégral, donc du béton avec ajouré où il n'y a rien d'autre pour les occuper. Ils ont comme ils n'ont n'ont rien à faire, comme ils n'ont rien pour s'occuper, pour avoir pouvoir exprimer ce besoin naturel de fouiller, bah, ils ont tendance à croquer les queues des congénères. Oui. Donc, oui, entre guillemets, en prévision, on leur coupe les queues avant.
Oui, bah,
voilà. Donc, des conditions d'élevage, vraiment, très généralisées.
Je pense que le consommateur ne le sait pas. De toute façon, c'est bien d'être lanceur d'alerte et de sensibiliser, parce que le consommateur ne sait pas toutes ces choses-là.
Exactement. Et je pense qu'il y a la partie lanceur d'alerte qui est très importante, mais aussi l'information au jour le jour. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, aussi, sur informer auprès du grand public, les gens qui commencent à s'intéresser un petit peu grâce à ces scandales, entre guillemets, les gens commencent à se rendre compte de l'importance de leur acte d'achat et de se renseigner avant d'acheter. Donc voilà, nous, notre première étape, c'est vraiment informer sur les conditions d'élevage et expliquer. Certaines parlent de soi, comme les images qu'on a vues. D'autres sont peut-être un petit peu moins évidentes sur les comportements naturels et nécessaires des animaux. Vous parliez des poules un petit peu plus tôt. C'est de pouvoir picorer, de pouvoir étendre ses ailes, de pouvoir prendre des bains de poussière. Ce sont des comportements absolument nécessaires l'animal.
Oui, oui.
Et dans l'élevage industriel, malheureusement, souvent, ils ne peuvent pas avoir ces comportements-là. Donc ça, c'est vraiment, déjà informé. Et voilà, on a fait, la science a fait beaucoup de progrès. Et les consommateurs qui vont ensuite choisir les produits animaux ont besoin aussi de savoir que, une case pour une truie, c'est pas bien. Une cage pour une poule ou pour un lapin ou pour une caille, c'est juste pas plus acceptable maintenant qu'on connaît la sensibilité des animaux et tout leur répertoire comportemental.
Alors justement, vous voulez informer les consommateurs, mais vous mettez aussi en valeur les entreprises dans le monde qui s'engagent en faveur du bien-être dans les animaux des animaux d'élevage. Alors vous décernez chaque année des prix qui s'appellent des trophées du bien-être animal. Alors il y a l'œuf d'or, le cochon d'or.
Oui.
Alors pourquoi ces prix et que veulent-ils dire ?
Bah écoutez, en fait voilà, il y a ce travail dont je vous parlais d'information, je pense que c'est très important, c'est auprès du consommateur, mais aussi le consommateur, il a besoin d'avoir des choix, il a besoin qu'on puisse le proposer des choix. Et effectivement, nous ce qu'on a, notre mission, c'est vraiment d'encourager les modes d'élevage alternatifs, donc au-delà du conventionnel, au-delà du standard, qui est l'industriel, hein, il faut bien le dire, appeler un chat, et encourager ces modes d'élevage-là. Et ça passe évidemment par le choix du consommateur, mais il doit pouvoir s'exprimer au travers de produits qu'il achète. Et donc ça passe par les entreprises agroalimentaires qu'on accompagne dans la prise en compte du bien-être animal de façon gratuite. On les accompagne, on les informe de combien c'est important le bien-être animal, comment l'intégrer, comment le surveiller, comment voir l'évolution, et puis évidemment faire des changements de système aussi pour pouvoir vraiment avoir des produits issus d'élevage vraiment plus respectueux, et ensuite le vendre aux consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Donc le travail, c'est les accompagner au jour le jour, et puis le point culminant, le point le plus visible quelque part, ce sont ces trophées où il y a des critères stricts par espèce, parce qu'évidemment les modes d'élevage varient d'une espèce à l'autre. Par exemple, pour les œufs d'or, il faut que l'entreprise s'engage à ne plus utiliser de ou d'ovoproduits issus de poules en cage.
Donc voilà, c'est un critère très simple. C'est la tendance dans les magasins, parce qu'il y a beaucoup de magasins maintenant. Alors on a cité Monoprix parce que eux c'est depuis longtemps, mais il y a d'autres enseignes qui suivent aussi.
Effectivement, il y a des producteurs, il y a des coopératives et il y a les enseignes qui sont souvent aussi moteurs pour faire changer les choses, qui sont peut-être au plus près du consommateur et qui sentent plus les demandes qui évoluent.
En termes d'image pour eux, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un distributeur qui arrête justement ses œufs bas de gamme, c'est un signal fort en termes d'image qu'il apporte.
Effectivement, c'est un avantage en termes d'image pour eux et pour valoriser aussi leurs clients. Mais c'est aussi, s'ils ne le prennent pas en compte, pour eux, ça devient un risque quelque part. C'est cette demande sociétale forte, et si elle n'est pas, on n'y répond pas, eh bien c'est un risque pour eux. Et nous, notre travail agroalimentaire, c'est vraiment que le bien-être animal soit au cœur de leur politique, soit ça soit vraiment un élément intégrant de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc vraiment, ça devienne dans l'ADN quelque part des entreprises, que ça soit pas une contrainte, pas un coût, mais vraiment une valeur ajoutée, que ça soit quelque chose d'essentiel pour que ça soit adopté le plus possible. Et alors, on voit vraiment une évolution.
Concrètement, voilà, vous avez récompensé cette année 8 entreprises françaises avec 9 trophées. Qui sont les bons élèves alors en France ?
Alors, les bons élèves, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Je crois que c'est ça qui est important à voir, c'est que les premiers trophées ont eu lieu en 2007. Cette année, on fêtait nos 10 ans. Et c'est vrai que les Français n'étaient pas toujours dans les premiers lauréats. Et on voit vraiment une évolution.
Voilà. Qui est aussi une évolution sociétale. Hein, c'est que les consommateurs veulent maintenant, suite à tous ces scandales, de la qualité. Hein.
Exactement. On voit vraiment que les entreprises françaises qui, peut-être, n'étaient pas par rapport aux anglo-saxons, peut-être les plus réceptifs au début de notre travail avec les trophées et les partenariats en général, vraiment s'engagent. Et d'ailleurs, cette année, on a eu 3 distributeurs qui se sont engagés sur le lapin. Et on parlait des porcs tout à l'heure, qui sont à 95% au système industriel, et lapin, c'est 99%. Et donc, on voit vraiment, en France particulièrement, une avancée sur les lapins, les distributeurs qui s'engagent avec leurs producteurs, leurs fournisseurs, à ne plus avoir des lapins en cage et se tourner vers des systèmes alternatifs qui sont en parc, où on peut avoir des plateformes pour qu'ils puissent sauter, qu'ils puissent bondir, qu'il n'y ait pas des limites de hauteur.
Et alors, quelles sont ces entreprises ? suspense avec vous, hein.
Effectivement, certains ont été mis en avant cette année, d'autres se sont engagés avant et d'autres s'engageront encore. Donc, effectivement, vous parliez tout à l'heure de Monoprix, qui fait partie du groupe Casino. Donc, c'est vrai que cette année, on a aussi récompensé les autres enseignes du groupe Casino.
Donc, c'est vraiment l'entité Casino qui a plusieurs marques comme Monoprix. Ils ont aussi Franprix, je crois.
Oui, enfin, Franprix, voilà. Leader Price.
Voilà, c'est ça.
Qui se sont engagés pour tout le groupe à ne plus vendre de poules en cage dans tout leur point de vente d'ici 2020.
Donc, j'ai cru comprendre aussi que Carrefour était sur la bonne voie, non ?
Aussi, alors tous les distributeurs, en fait, on voit un grand mouvement.
Tous les distributeurs. Quand il y en a un qui a commencé, peut-être aussi que...
Et c'est un mouvement qui vient un peu outre-Atlantique. Il y a vraiment, autant le bien-être animal n'est pas toujours au mieux aux États-Unis, autant il y a vraiment eu un très très grand fort mouvement sur les œufs qui est ensuite déferlé sur la Grande-Bretagne et sur la France. Et donc on voit vraiment, c'est quelque chose aussi d'assez visuel. Et je pense que les consommateurs sont assez réceptifs à force effectivement d'images, scandaleuses ou pas, parce qu'on peut se dire que des élevages en cage... même sans problème sanitaire majeur, ne permettent pas de répondre aux besoins des animaux.
Léopoldine, vous restez avec nous, 7h20, on revient dans un instant. On voit que ça avance du côté des poules et des œufs. Est-ce que ça va contaminer d'autres filières, on va dire? On va en parler dans un instant. Et 3216, animaux@rmc.fr ou via l'appli Direct Studio, vous pouvez nous laisser un message. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h23, le retour du week-end des experts, les animaux. Un bon dimanche et un bon réveil si vous venez peut-être de nous rejoindre. Laetitia Barlerin, notre véto qui est là à mes côtés. Et on s'intéresse à ces entreprises, Laetitia, qui s'engagent pour le bien-être animal.
Voilà.
Il y en a de plus en plus. Il y a de bonnes ondes, visiblement.
Il y a de bonnes ondes, en tout cas, c'est sociétal. Donc, c'est vrai que les entreprises aussi captent aussi les demandes et les intérêts des consommateurs, ce qui est normal, quand même.
Parce qu'elles sont là pour faire du business. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi une problématique d'image dans tout ça.
Et nous sommes toujours avec Léopoldine Charbonneux, directrice du CIWF France, donc qui décerne des trophées du bien-être animal à ces entreprises qui s'engagent pour le bien-être animal. Alors, on a parlé du groupe Casino. Est-ce que vous avez d'autres entreprises qui ont eu cette année ces trophées et qui s'engagent pour le bien-être animal ?
Oui. Alors donc il y a d'autres distributeurs aussi. Par exemple, Shiver Distribution qui est peut-être un plus petit distributeur, mais aussi par exemple sur les poulets, il y a Système U qui s'engage à justement de s'approvisionner en marque propre pour des poulets vraiment issus d'élevages plus respectueux du bien-être animal. Alors ça veut dire moins de poulets au mètre carré, donc moins de densité, des croissances plus lentes des animaux, parce qu'en fait les animaux on leur demande sinon de pousser de façon tellement rapide que leur corps n'arrive pas à suivre. Donc la croissance moindre et très importante, et aussi enrichir le milieu. On parlait des comportements tout à l'heure des animaux. C'est vrai que le poulet a besoin, bah, comme la poule, d'étendre ses ailes, de picorer, de pouvoir gratter, de pouvoir se percher. Il faut pas oublier que le poulet ou la poule a un ancêtre donc il a encore certains comportements et certains
d'ailleurs,
instincts.
Quand on a des poules,
il doit être perché, par
voilà.
exemple.
Mais quand on a des poules, on sait bien que le soir, elles se perchent, pour dormir, Donc, voilà. Et même des fois, dans les arbres, donc pour les faire rentrer dans le poulailler, c'est un peu plus difficile.
Pour se protéger, en fait, pendant qu'elles dorment,
voilà,
c'est ça?
C'est instinctif.
Simplement.
Voilà, exactement. Et alors, est-ce que des entreprises, alors là, on a parlé des distributeurs, il y a aussi des entreprises qui utilisent des produits pour des produits finis, est-ce que eux aussi, parce que c'est bien de pas acheter d'œufs de poules en batterie, mais si on achète des biscuits par exemple ou
avec
d'autres
avec
des œufs de poules en batterie, c'est pas la même chose.
Alors voilà, et ça c'est très important, et c'est vrai que il y a un étiquetage en fonction du mode d'élevage des œufs pour les œufs coquilles, ceux qu'on achète dans le commerce.
Et là il faut acheter certains œufs.
Voilà, exactement. Et donc, il faut absolument privilégier le 0 qui est bio, ou le 1 qui est plein air, ou le 1 label rouge qui est un intermédiaire entre le plein air normal et le bio, et absolument se détourner du 3 qui est la cage. Donc on a un étiquetage assez clair qui permet aux consommateurs de savoir en un coup d'œil comment la poule a été élevée.
Et surtout pas regarder la photo. Parce que des fois, on voit des poules qui sont en train de gambader dans les prés, alors que ce sont des poules de batterie.
Voilà. Et ça, on le sait pour les œufs. Voilà, un consommateur averti qui connaît ses codes peut vraiment se rendre compte d'un premier coup d'œil. En revanche, quand on achète des produits où il y a des œufs comme ingrédient, eh bien, c'est beaucoup moins simple de le voir. En fait, si quelque part c'est simple, c'est-à-dire que si ce n'est pas marqué plein air ou bio, ça sera de la cage. Et donc ça, c'est quelque chose, ce sont des œufs cachés, entre guillemets, mais qui correspondent à quand même une grande partie des œufs utilisés. Et donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant quand on fait ses achats pour pouvoir choisir les produits qui n'ont pas d'œufs en cage, quelque part.
Alors pour finir, vous venez de signer avec deux autres ONG un partenariat avec le groupe Casino pour un meilleur étiquetage des denrées animales, c'est-à-dire...
Alors en fait, comme on parlait justement des codes sur les œufs, c'est le seul produit d'origine animale qui est étiqueté, entre guillemets, par une petite impression sur l'œuf, selon le mode d'élevage. Et on voit que ça a vraiment fait évoluer le marché des œufs du tout cage vers plus de plein air, plus de systèmes alternatifs, de façon tout à fait naturelle, qui s'accélère, comme on le disait, mais vraiment, ça a permis aux consommateurs de faire un choix éclairé. Et ça n'existe pas pour les autres produits, et donc ça nous paraît vraiment...
Par exemple, la viande.
Pour la viande, pour un élevage, par exemple, on parlait de porc un peu plus tôt, savoir comment l'animal a été élevé, c'est vraiment une question essentielle pour le consommateur, et souvent il n'y a pas la réponse. Et donc c'est pour ça qu'il nous paraît essentiel de travailler sur un étiquetage vraiment clair où on peut connaître les conditions d'élevage de l'animal.
Ouais, et responsabiliser le consommateur. Et responsabiliser le consommateur qui aura plus d'informations concernant la provenance de la viande.
De toute façon, le pouvoir, c'est le consommateur qui l'aura concernant le bien-être des animaux d'élevage. Parce que c'est lui qui achète. Donc c'est lui qui choisit et qui choisira, en tout cas, les denrées qui lui semblent les plus respectueuses de ce bien-être.
Léopoldine, merci beaucoup, directrice de CIW
France.
Laetitia, bientôt 7h30. La météo, les infos. Et on revient avec vos questions au 32-16. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
À 7h32, le retour du week-end des experts, les animaux. Et tout à l'heure, à partir de 8h, vous le savez, l'automobile avec Jean-Luc Moureau qui me rejoindra. Et toutes vos questions auto de 8 à 10. Laetitia, tout à l'heure, on va évoquer les tortues. Voilà, les tortues marines et les mammifères marins.
Voilà, on vous demande d'être observateur, c'est-à-dire que signaler si vous en voyez sur la côte atlantique. Parce qu'il y en a, bien
exactement,
sûr.
Ça sera dans quelques instants. Mais auparavant, sujet plutôt alarmant, on va parler de cette éventuelle extinction de masse des animaux qui pourrait s'accélérer.
Et nous sommes avec Bernard Crescens, qui est président de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Région France. Bernard, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Alors, dans une étude vraiment très alarmante hein, qui est apparue cette semaine. Des chercheurs américains et mexicains concluent que les animaux vertébrés reculent de manière massive sur Terre. Ils parlent de 6e extinction de masse des animaux. Alors, pour info quand même, la 5e, c'était la disparition des dinosaures. Alors, que nous apprend cette étude ?
Cette étude ne fait que confirmer ce que à l'UICN on sait depuis plus de 50 ans, c'est que la population humaine galopante et sa consommation excessive font que les milieux naturels disparaissent de plus en plus, que les océans sont pollués et que les animaux sont durement prélevés et que un certain nombre d'espèces, même des espèces communes, sont en voie d'extinction. Alors les extinctions, il y en a toujours eu, hein, mais ce qui est la durée de temps pour la Terre, c'est le million d'années.
Oui.
Et c'est pas du tout la durée de pensée et d'action des hommes qui sont plutôt dans l'instantané, surtout dans nos sociétés modernes. Donc aujourd'hui, on voit que le rythme de disparition des espèces est en train de s'accélérer de l'ordre de 100 à 1000 fois, suivant les milieux naturels dans lesquels elles vivaient.
C'est incroyable parce que dans leur étude, ils parlent qu'en 100 ans, 200 espèces de vertébrés ont disparu. C'est énorme. Et que d'autres vont disparaître. Et alors, ils ne parlent pas que des individus, ils parlent aussi des populations qui diminuent.
Alors, c'est vrai que le réflexe de penser espèce ou individu ne compte pas dans la nature. Parce qu'en fait, un individu d'une espèce, il est condamné à disparaître. Il faut regarder en population. Et l'intérêt de cette étude, c'est que ils ont étudié les espèces dans leur population, et ils en ont étudié un grand nombre.
Oui.
Un grand nombre à partir justement des listes rouges de l'UICN. Et c'est vrai que c'est alarmant, mais c'est pas plus alarmant que ce que nous on sait, que ce qu'on dit depuis une cinquantaine d'années. On l'a dit pour les grands mammifères, bien sûr, comme les éléphants, comme les lions, comme les tigres. Et leur étude ne fait que souligner. Alors, de temps en temps, ils sortent une étude spécifique, mais il faut savoir que chaque année, nous sortons les listes rouges et nous les remettons à jour, et que malheureusement,
elles augmentent.
Majoritairement, les espèces, vous parliez des tortues et des dauphins, par exemple. Alors, les tortues, elles ont complètement disparu, des populations entières ont disparu sur certaines côtes où elles ont été surpêchées ou braconnées ou prises dans les filets de pêche. Et puis par contre, on a des résultats assez intéressants dans les zones où elles ont été protégées. Donc on peut aussi faire quelque chose.
Oui, parce que cette extinction massive serait due uniquement à la folie humaine, hein, voilà, hein, aux hommes. Alors si nous on est le responsable, est-ce qu'on peut encore agir? C'est-à-dire faire en sorte que on revienne, on stoppe cette extinction et on résolve peut-être le problème.
Alors stopper l'extinction. De toute façon, je vous dis, les espèces, elles ont un cycle et puis elles peuvent disparaître.
Oui, mais le cycle est trop rapide,
voilà.
On l'accélérerait, ce cycle, en fait.
Voilà, on peut ralentir le phénomène, mais on a exactement un parallèle à faire entre la disparition de la biodiversité. Nous sommes un super prédateur, nous sommes au sommet de la pyramide. Mais si la base de la pyramide s'effrite de plus en plus avec des espèces qui disparaissent et des écosystèmes qui sont malades, il faut savoir que celui qui est en haut de la pyramide, il tombera avec eux.
Et
on est exactement dans un parallèle entre la perte de biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Les géologues ont baptisé ça l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de l'homme. Et si l'homme continue, eh bien, cette ère, nouvelle ère géologique, au bout de quelques millions d'années, eh bien, les écosystèmes s'effondreront, les changements climatiques ayant entraîné des modifications profondes de tous les écosystèmes, l'homme sera peut-être partie d'une des espèces qui disparaîtra, comme beaucoup d'espèces envahissantes, qui prolifèrent, et puis d'un seul coup, il y a un virus, une bactérie, un champignon, qui fait que massivement cette espèce, ou un manque d'approvisionnement, qui fait que massivement cette espèce va disparaître.
Et est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'on peut encore ralentir la machine, comme on dit?
Alors disons que les gens qui sont dans la protection de la nature s'occupent aussi de la protection de l'humanité. Alors ils sont raisonnablement optimistes, mais bon, c'est vrai qu'il y a des phénomènes politiques, par exemple, qui d'un seul coup nous font baisser le moral quand on entend des gens qui quittent le plan climat. Quand on voit des gens qui réouvrent des oléoducs dans des zones de réserve, quand on voit des parcs nationaux qui sont pillés par les entreprises internationales. Donc, on peut être raisonnablement optimiste, mais il faut savoir aussi qu'il faut se bagarrer. Alors nous, à l'UICN, On se bagarre pas avec les moyens de Greenpeace, on se bagarre avec d'autres moyens qui sont la sensibilisation, l'information, le lobby auprès des politiques.
Mmh. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Alors, parlons un petit peu plus de la France, parce que je sais que l'étude révèle aussi que même des espèces considérées comme communes voient leur population décliner dangereusement. Ils prennent l'exemple du chardonneret qui existe en France. Alors, ça veut dire prendre un petit peu est-ce que la faune française est malade? Est-ce que tout aussi menacée?
Mmh. Alors, l'exemple symbole, c'est l'abeille. Hein, les abeilles dans le monde entier sont menacées, mais elles sont menacées aussi en France. Les populations d'abeilles ne se portent pas bien. Alors, bien sûr, le principal accusé, c'est...
Les abeilles domestiques ou les abeilles sauvages.
Mais les abeilles sauvages aussi ne se portent pas bien. Elles sont touchées comme les abeilles domestiques. Mmh. Hein. Alors, le principal accusé, c'est l'agriculture industrielle, une agriculture intensive qui utilise des pesticides et en même temps... remplace des écosystèmes variés par un écosystème simplifié avec une seule ou deux seules variétés végétales. Hein. En France, oui, l'alouette des champs, par exemple, tout bête.
Oui.
Mais je pense que beaucoup de gens s'aperçoivent qu'autour de chez eux, les hirondelles, par exemple, il y a des... Alors, autant moi, je suis dans les Hautes-Alpes. En ce moment, j'ai des hirondelles de partout. Je suis heureux comme tout. Des martinets...
Oui, mais c'est des zones qui sont protégées, quelque part.
Alors, ce sont des zones où il n'y a absolument pas de pesticides. Il y a très peu de développement industriel aussi. Et en fait, ce sont des zones où ces espèces-là peuvent accomplir leur cycle. Mmh. Le problème, c'est qu'après, elles partent en migration. Alors, il suffit qu'elles survolent un pays en guerre ou un pays où la chimie est là et donc ils n'ont rien à manger et le peu qu'ils mangent est empoisonné. Donc on se retrouve, la France n'est pas un pays à part. Hein, la France n'est pas un pays à part. On a nos outre-mer qui sont très riches de biodiversité et on a aussi des espèces qui disparaissent dans nos outre-mer. Donc on est dans un système complet, on peut avoir des actes au quotidien, il s'agit de diminuer notre appétit de consommation énergétique et notre appétit de consommation de viande d'élevage et autres. Il faut avoir une attitude qui soit une attitude un peu plus de sobriété.
C'est sûr. Alors, juste une dernière chose. On parle de sixième extinction massive des animaux. Alors, comme je disais tout à l'heure, la cinquième, c'était les dinosaures. Et à chaque fois, les scientifiques le disent, les extinctions massives d'animaux ont permis l'émergence de nouvelles formes de vie, de nouvelles espèces. Est-ce que dans notre cas, la disparition d'espèces permettra la naissance d'autres espèces?
Ben, la nature a horreur du vide.
Donc,
de toute façon, des espèces qui actuellement sont peut-être marginales en nombre peuvent très bien prendre la place dans des écosystèmes qui soient malmenés. Prenez aujourd'hui le cas des fourmis, par exemple. C'est extraordinaire de voir le nombre de fourmis qui se sont réinstallées et qui ont recolonisé des milieux. Parce qu'en fait, la fourmi est un animal qui a d'abord énormément d'espèces. Hein, avec une très forte capacité d'adaptation. Et c'est clair et net que les insectes, le monde des insectes, est un monde extrêmement résistant. Mmh. Et il y aura parmi les insectes des espèces qui vont s'installer dans les niches écologiques qui seront libérées.
Et on parle aussi des méduses.
Et parce qu'ils auront moins de prédateurs. Vous parliez des oiseaux tout à l'heure. C'est sûr que s'il y a moins d'oiseaux, il y aura plus d'insectes.
Alors, il y a toujours un équilibre. Donc, il y aura moins de prédateurs. Il y aura des milieux naturels appauvris. Donc, il faudra trouver des espèces qui arrivent à vivre dans des milieux appauvris.
Eh oui.
Dans la mer, c'est tout à fait le cas des méduses.
Eh oui.
C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces inférieures, dites inférieures au niveau du développement, qui vont peut-être remplacer les mammifères et les oiseaux.
Oui.
Oui.
Ouais, c'est
pas très réjouissant tout ça.
C'est pas réjouissant.
Oui.
L'énorme avantage que nous avons sur les millions d'années précédentes, c'est que nous, on sait.
D'accord.
Et qu'on peut agir.
Voilà.
Bon, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez, raisonnablement.
Un
peu optimiste. Donc voilà, on va rester sur cette note positive. Merci beaucoup Bernard.
Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes président de l'Union internationale pour la conservation de la nature en France.
Voilà, il faut rester optimiste quand même. Hein,
oui, mais il faut quand même.
Voilà. Ah non, mais il faut prendre
notre
avenir en main.
Voilà, il faut réagir. Hein. C'est un petit peu comme on est de parler du bien-être animal en élevage. Et oui, le consommateur doit agir. Et là, nous devons aussi agir.
Pratiquement 8 ans moins. mois de quart. C'était RMC. On va revenir dans un instant et on va observer les tortues marines et les mammifères marins.
Et là aussi, on va agir pour la science.
Exactement. En faisant quoi, une espèce de référencement des animaux qu'on va pouvoir croiser.
Voilà, exactement. Devenant observateur des animaux marins.
Exactement. Ça sera dans un instant. Et puis le 32-16, si vous voulez nous joindre, animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC 6h-8h, vos animaux. RMC 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
8h moins le quart, nous sommes de retour. Merci d'être avec nous. C'est le week-end des experts. Et les animaux jusqu'à 8h avec Laetitia qui est à mes côtés. Laetitia, allez, si on s'intéressait à la démographie des tortues et des mammifères marins.
Eh oui, on vous demande même d'observer les tortues et les mammifères marins pour mieux les protéger. Et nous sommes avec Florence Delamico.
Bonjour,
responsable du Centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'aquarium de La Rochelle. Alors, chaque année, en été en tout cas, l'aquarium de La Rochelle et l'observatoire Pélagis proposent aux particuliers d'observer l'océan pour participer à la recherche scientifique. C'est un peu de la science participative. Alors, dites-nous comment les vacanciers peuvent vous aider.
Alors effectivement, devenir observateur de l'Atlantique, c'est un programme de science participative qui a été initié il y a plus de 20 ans maintenant par l'Aquarium de La Rochelle avec l'Observatoire Pélagis.
Vous avez été les premiers à faire de la science participative.
Exactement, on était des pionniers dans ce niveau-là. Et donc effectivement, le but était de collecter les observations de tortues marines et de mammifères marins qui sont faites en fait par les plaisanciers sur le plan d'eau. Les tortues marines et les mammifères marins sont des espèces qui sont hautement mobiles, donc qui vont parcourir de grandes distances. Et il est très difficile de quadriller l'ensemble de la façade manche atlantique. Donc on va demander en fait aux plaisanciers d'être nos yeux en fait hein, sur le plan d'eau.
Oui.
Et donc dès qu'un plaisancier va faire une observation de tortue marine, poisson lune ou mammifère marin, il faut qu'il nous contacte. Et à ce moment-là, nous allons remplir une fiche.
Voilà, il y a des fiches à remplir, c'est ça, sur le site internet hein.
Exactement. Alors la chose la plus simple, c'est dans un premier temps de nous appeler, comme ça on peut remplir directement ensemble les informations demandées.
La plupart du temps aussi, on connaît pas les espèces. Hein. Oui. On dit, oh, il y a une tortue, mais alors quelle tortue?
On ne sait pas trop.
Dauphin qui passe, c'est un peu ça, quoi.
Exactement. Alors, l'intérêt de nous appeler, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone qui vous répondra et avec qui vous pourrez échanger. Enfin, en tout cas, le plaisancier pourra échanger afin de déterminer au mieux, d'identifier au mieux l'espèce observée. Et effectivement, maintenant, avec les téléphones portables, les appareils photo, maintenant beaucoup plus facile, en fait, de pouvoir prendre une photo, quoique les animaux restent très, très discrets et qu'il faut toujours avoir l'appareil photo à portée de main pour pouvoir faire la photo qui permettra l'identification. Et en tout cas, par rapport au comportement de l'animal, à ce moment-là, on pourra faire l'identification facilement avec la personne qui sera au bout du fil.
Quelles sont les tortues qu'on peut voir sur le littoral atlantique? Quelles sont les espèces? Et puis, est-ce qu'il y en a, puisque vous les suivez depuis 20 ans, est-ce qu'il y en a de plus en plus, de moins en moins?
Alors, sur la façade manche atlantique, on va avoir quatre espèces de tortues marines qui peuvent être observées et une spécifiquement, la tortue lutte, qui va venir s'alimenter sur nos côtes.
C'est la plus grosse.
C'est la tortue marine la plus importante, la plus grosse et qu'on va observer à l'état subadulte-adulte, donc qui est facilement reconnaissable en mer puisque c'est un animal qui est vraiment très très sombre. Et qui est de grande taille, qui peut mesurer entre 1m30 et 1m60. Donc on va facilement l'identifier. Et ensuite, il y a trois autres espèces que l'on va moins facilement reconnaître puisque ce sont des tout petits individus qui vont arriver sur nos côtes. Donc les tortues kawan, les tortues de Kent et les tortues vertes qui font en moyenne 20 cm de longueur de carapace. Donc là, pour le coup, elles sont très peu observées. Et on va plutôt les observer en échouage. Donc les tortues luttes qui viennent s'alimenter sur nos côtes vont être observées principalement en été, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de sorties en mer et la visibilité est beaucoup plus importante en été. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir un peu plus de données collectées, mais il y a effectivement des passages aériens, des suivis aériens qui sont faits au niveau scientifique et qui vont permettre de mettre en évidence la présence des tortues luttes au large de nos côtes, même en période hivernale, puisque notamment les tortues luttes sont des espèces qui s'affranchissent de la température. Donc,
toutes ces tortues sont protégées. Est-ce que leur nombre augmente ou pas, d'après vos études?
Les tortues marines sont des espèces effectivement qui sont protégées. Le programme de science participative ne va pas nous permettre de compter les animaux. Ils vont essentiellement nous permettre d'identifier leur présence sur nos côtes ainsi que leur fréquence d'observation. Mais on ne va pas pouvoir compter le nombre d'individus qu'il y a près de nos côtes. Tout ce qu'on peut savoir, c'est effectivement si à l'année où on va les observer, elles sont présentes ou non.
Mais sur 20 ans, est-ce que vous avez quand même certaines données qui indiquent que, alors peut-être que depuis 20 ans, les particuliers sont un peu plus actifs et puis ont plus le réflexe de vous appeler?
Alors effectivement, la communication est très importante et c'est pour cela que l'Aquarium La Rochelle essaye de faire un maximum de communication autour de cette campagne de sciences participatives avant chaque été pour sensibiliser un maximum de plaisanciers. Et sur 20 ans, en fait, effectivement, on observe des fluctuations d'année en année. Alors il y a des années avec beaucoup d'observations et des années avec très peu d'observations. Et l'année dernière, effectivement, on avait plus d'une cinquantaine d'observations qui ont été faites sur toute la façade Manche-Atlantique. Et dans des zones qui sont reconnues comme zones d'alimentation pour les tortues.
Voilà. D'accord. Alors, si on observe une tortue, non pas en mer, mais échouée sur une plage, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, comme il s'agit d'espèces protégées, surtout donc de ne pas la toucher et d'appeler tout de suite l'Aquarium La Rochelle.
Est-ce que vous avez un centre de soins?
Voilà, donc nous sommes le seul centre de soins habilité à accueillir les tortues marines en perdition sur toute la façade Manche-Atlantique. Donc nous travaillons en réseau, on forme des personnes qui vont être habilitées à intervenir auprès de ces espèces marines protégées. Et donc on va leur ces personnes-là, on va leur délivrer les méthodes pour pouvoir prendre l'animal et pouvoir nous la ramener rapidement vers notre centre de soins.
Et vous en avez combien de tortues qui sont soignées chaque année?
Alors chaque année, c'est en moyenne une dizaine de tortues qui peuvent être accueillies dans le centre de soins. Il y a des années qui vont être plus importantes que d'autres. L'année dernière, nous avons accueilli plus d'une quinzaine de tortues. Et puis il y a des années, comme cette année par exemple, où nous n'avons accueilli qu'une seule.
C'est bien ou c'est pas bien? Ça veut rien dire.
Voilà, c'est très difficile. C'est très difficile puisque on a une côte très très longue à observer. Donc soit les animaux ne se sont pas échoués. Soit les animaux n'ont pas été observés. En tout cas, on essaye d'avoir une pression d'observation de plus en plus importante et de communiquer un maximum sur le fait que nous existons, qu'il existe un centre de soins et que les tortues marines ne doivent pas être remises à l'eau directement. Il faut qu'elles passent absolument par notre centre de soins.
Et voilà, elles ont souvent un problème. Alors l'année dernière, vous avez relâché une tortue qui était équipée d'un émetteur satellite. Alors est-ce que vous avez les données? Où va-t-elle, cette tortue?
Elle n'est pas allée dans l'espace, quand même, Florence. Non.
Non, elle n'est pas allée dans l'espace, mais en tout cas, l'espace va nous aider à connaître sa position en mer. Ça fait depuis 2008, on a posé 16 équipements satellites pour pouvoir suivre ces individus. Généralement, les émetteurs satellites sont posés sur des individus adultes, puisqu'il est plus facile d'équiper des femelles qui viennent glisser en fait les sites de ponte. Et nous sommes les premiers pratiquement à poser des émetteurs sur des individus juvéniles de très petite taille, puisque normalement ces individus sont censés être vraiment très très au large des côtes. Et nous avons une particularité sur la façade Manche-Atlantique, c'est que nous recueillons des petites tortues qui ont été déroutées dans l'océan Atlantique Nord par les courants, les fortes tempêtes, et qui se sont échouées malencontreusement sur nos côtes. Et les eaux froides qui les ont piégées. Donc nous récupérons des animaux qui sont en hypothermie, qui souffrent du froid, qui présentent des pneumonies, et donc on va les soigner, ensuite on les relâche. Mais quand on les relâche...
Vous leur mettez un petit tracker.
Alors pas toutes, puisqu'il y en a qui sont vraiment de très petite taille.
Ça va arriver, on va leur mettre, avec les nouvelles technologies, on aura des micro-émetteurs.
Ah oui, ben c'est sûr. Ben alors, la difficulté avec les petits émetteurs, c'est qu'on a des batteries qui sont très très petites et donc qui durent très peu de temps. Donc, et là, oui, effectivement, l'année dernière, nous avons équipé Globe Elena avec un émetteur et cela fait plus d'un an maintenant qu'on la suit.
Et alors, elles vont où ces tortues? Parce qu'elles pondent pas sur nos côtes.
Ah non, alors elles pondent pas sur nos côtes et puis en plus, comme elles sont au tout début de leur vie, elles ont encore 20 voire 30 ans avant de retourner vers leur site de reproduction.
Ouais.
Donc là, normalement, elles sont censées être au large de nos côtes, en plein océan Nord-Atlantique, à s'alimenter, grandir, profiter.
Ouais.
Et éviter les prédateurs, éviter toutes les menaces en fait qui pèsent sur ces espèces. Et donc justement, c'est ce que l'on cherche à savoir. C'est une fois que nous relâchons les individus, où est-ce qu'ils se dirigent et quels sont les facteurs océanographiques qui vont influencer leur déplacement. Et donc là, pour l'instant, Globe Elena nous a montré un parcours qui était proche de celui d'une tortue qu'on avait relâchée également il y a quelques années. Et donc, elle a passé tout l'hiver dans le golfe de Gascogne. Qui montre d'une part que les tortues, finalement, quand elles arrivent sur nos côtes, elles arrivent également à passer le cap de la période hivernale. Et là, actuellement, elle se trouve à peu près 200 km au large du sud des côtes portugaises.
D'accord.
Donc, normalement, elle devrait se diriger vers les zones d'alimentation qui se trouvent au niveau des Açores.
Parfait. Bon, écoutez, bravo Florence. C'est un peu comme si une tortue avait Waze.
Elle fait des kilomètres et des kilomètres,
c'est très
tortues.
Bien. Merci beaucoup, Florence.
Merci, vous êtes.
Je vous en prie. Bonne journée
du Centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'Aquarium La Rochelle. Et nous mettrons sur la page Facebook les coordonnées.
Oui.
Si vous vous rendez justement sur la côte atlantique et si vous observez, bien sûr, des
mammifères
marins ou des tortues, vous pouvez les appeler.
Laetitia, on se retrouve dimanche prochain.
Oui.
6h-8h.
Bien sûr, et je vous souhaite un très très bon dimanche ensoleillé, a priori. Et je vous embrasse, à dimanche prochain.
Oui, regardez, Jean-Luc Moore est content, il va pouvoir faire sa petite côte de bœuf grillée.
Ben, même pas. Non, je voulais faire du steak de tortue, mais en fait,
qu'on n'a pas. Faites attention, il faut enlever le GPS parce que c'est difficile à digérer.
Ne rigolez pas, je suis parrain d'une petite tortue marine que j'ai remis à l'eau, au Mexique il y a quelques années. Ça se trouve, c'est une grande tortue, elle pense à moi tous les jours maintenant.
Bien sûr.
Au moins, il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est déjà ça. Bon, Laetitia, dimanche prochain.
Et la marmotte, elle.
Non, mais c'est vrai que je l'ai remis à l'eau.
C'est vrai?
Oui, il y avait des œufs qui avaient éclos et en fait, tout le monde allait mettre une petite tortue à l'eau pour éviter que les oiseaux les déciment avant qu'elles arrivent à la mer.
Et finalement, vous avez un cœur énorme.
Mais c'est incroyable.
Dingue, ça. C'est fou, ça.
Jean-Luc Moreau aime aussi les animaux.
J'adore les animaux.
Enfin, surtout les côtes de bœuf. Donc, ça, c'est un autre débat. Jean-Luc, on se retrouve dans un instant après la météo et les infos. Deux heures dédiées à l'automobile sur RMC avec vos questions au 32-16. À tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.